Imaginons un instant la scène. On est sur un tatami d'entraînement, l'air est lourd, ça sent la sueur, puis deux grappleurs sont complètement accrochés l'un à l'autre.
Ouais, la tension est à son comble.
Exactement. Et soudainement, en une fraction de seconde, un des combattants sent une infime variation de poids chez son adversaire, son pied quitte le sol d'un petit millimètre, puis bang, un balayage parfait.
C'est fini, le combat est terminé.
Terminé. Mais quand on analyse ce genre de moment-là, avec le modèle classique de la biologie humaine, ben l'explication qu'on nous donne ressemble carrément de la science-fiction.
Tellement, on nous dit pratiquement que les yeux du combattant prennent des photos à haute vitesse.
Ouais, que ces données brutes-là montent jusqu'au processeur dans le crâne. Que le cerveau calcule la trigonométrie des angles articulaires, estime le centre de gravité, fait tourner un algorithme, puis envoie un signal aux muscles.
Sauf que, ben le temps que cette équation mathématique-là soit résolue, le balayage est déjà passé.
Exact.
Et le combattant s'est fort probablement fait projeter lui-même. Le délai de calcul rendrait la fluidité du sport de haut niveau juste physiquement impossible.
Et c'est ce paradoxe-là qui nous plonge aujourd'hui dans cette analyse en profondeur. Une exploration de la psychologie écologique appliquée à l'apprentissage moteur et surtout aux arts martiaux.
Oui, c'est un sujet fascinant.
Vraiment. Les sources qu'on a décortiquent, une véritable guerre de tranchées scientifiques. Le grand débat entre la perception indirecte et la perception directe.
Oui. On ne parle pas juste d'une petite chicane de philosophe ici.
Non, pas en tout. On parle d'une remise en question totale de la façon dont les humains perçoivent réellement le monde. Et si on change ça, ben on doit complètement jeter aux poubelles notre manière d'enseigner une habileté physique.
Exactement. C'est un changement de paradigme complet.
Bon, on va décortiquer ça ensemble, parce que pour comprendre ce qui se passe vraiment sur un tatami, ben curieusement, il faut d'abord regarder du côté des ordinateurs. Je suis prêt si tu l'es?
Je suis prête. Et pour bien saisir la révolution en cours, il faut s'attaquer au colosse que cette nouvelle théorie essaie de faire tomber.
Le fameux modèle classique.
Ouais. Ce colosse-là, c'est la théorie de la perception indirecte. Ça a été formalisé par le chercheur David Marr dans son livre « Vision » en 1982.
OK.
Et Marr, ben, il pose un problème de départ qui est purement anatomique. Notre rétine, au fond de l'œil, c'est une surface plate.
Donc, en deux dimensions.
C'est ça. Elle reçoit de la lumière, ça crée une projection en 2D. Le problème, c'est que le monde extérieur, lui, est en 3D.
Ah, je vois. C'est le fameux concept du problème mal posé en mathématiques. L'information de base est fondamentalement insuffisante pour trouver une réponse unique.
Exactement. Le problème est énorme. Une image 2D projetée sur une surface plate, c'est ambigu par définition.
Donne-moi un exemple pour qu'on visualise bien.
Ben, mettons le jeu des ombres chinoises. Tu vois l'ombre d'un lapin sur le mur.
Oui.
Cette forme 2D-là, elle pourrait être projetée par un vrai lapin, ou par une découpe en carton, ou juste par deux mains bien positionnées devant une lampe.
Fait que une seule image sur la rétine peut correspondre à une infinité de choses dans le monde réel. L'information manque.
C'est en plein ça. Pourtant, on ne passe pas nos journées à foncer dans les murs ou à essayer d'attraper des ombres de lapin.
Fait que, attends, est-ce que c'est comme un détective qui arrive sur une scène de crime avec seulement quelques indices fragmentaires puis qui doit déduire mentalement ce qui s'est passé?
Oui, c'est une excellente analogie. Comment le cerveau de mort règle ce manque d'informations? En devinant.
En devinant? Sérieusement?
Ben, plus précisément, en faisant de l'inférence statistique. Le cerveau va compenser le manque visuel en ajoutant ses propres règles préprogrammées.
Ce que Marr appelle des contraintes implicites, c'est ça?
Exact. Le système nerveux suppose que, par exemple, la lumière vient presque toujours d'en haut à cause du soleil.
Logique.
Il suppose que les objets sont solides, que les surfaces sont continues. Fait que face à l'image ambiguë, le cerveau applique ces règles-là puis calcule la probabilité.
Il se dit genre, statistiquement, cette tache de lumière-là, c'est fort probablement une tasse de café.
Et voilà, il reconstruit une représentation du monde à l'intérieur de la tête.
Wow! Si on transpose ça en termes technologiques, le cerveau fonctionne un peu comme un moteur de jeu vidéo qui fait un rendu graphique.
Ouais, image par image.
Il reçoit des données basiques, puis il doit calculer la physique, générer la géométrie 3D pour créer une scène. Mais ça veut dire qu'il y a un énorme délai de traitement informatique.
Énorme!
L'humain serait toujours en décalage par rapport à la réalité.
L'analogie du jeu vidéo capture super bien la lourdeur du processus. C'est pour ça qu'on l'appelle la perception indirecte.
Parce qu'on n'est pas en contact direct avec le monde.
Exact! on serait coincé dans notre boîte crânienne, obligé d'interagir avec la représentation virtuelle que notre cerveau vient de calculer.
En espérant que le calcul soit bon, mais t'sais, rendre une réalité en 3D frame par frame pendant qu'on court en forêt, ben, ça demande une puissance de calcul faramineuse.
Totalement disproportionnée par rapport à notre biologie.
Et c'est pas juste une théorie farfelue, hein? C'est là-dessus qu'on a bâti l'intelligence artificielle et les voitures autonomes.
Sauf que nous, on n'est pas des ordinateurs. Et c'est là que le modèle prend l'eau, puis que la psychologie écologique fait son entrée.
Oui. Et la faille majeure du modèle de mort a été repérée par un chercheur nommé James G. Gibson.
Le père de la perception directe?
Lui-même. Gibson a regardé ses théories computationnelles et a souligné une erreur fondamentale. On étudie un artefact. Qu'est-ce que tu veux dire par un artefact?
Bien, la théorie indirecte part du principe qu'un œil observe une image fixe à partir d'un point statique, un peu comme une caméra posée sur un trépied.
Ouais.
Mais dans la nature, aucun animal perçoit le monde de cette façon-là. Un organisme vivant, ça bouge continuellement.
C'est clair. On tourne la tête, on marche, nos yeux font des saccades.
Exact.
Mais attends, le mouvement, ça devrait pas compliquer les choses? Si l'ordinateur a déjà de la misère avec une image fixe, lui envoyer un flux vidéo chaotique, ça devrait le faire surchauffer.
C'est ce qu'on pourrait penser. Mais Gibson prouve que c'est exactement l'inverse. Le mouvement ne crée pas de chaos, il crée de la structure.
C'est ici que ça devient vraiment fascinant. Vas-y, explique-moi ça.
Quand on se déplace, l'image sur notre rétine se transforme, mais de manière extrêmement prévisible. C'est ce qu'on appelle le flux optique.
Le flux optique, d'accord.
Et la beauté de la chose, c'est que ce flux-là détruit l'ambiguïté. L'information qui manquait dans l'image fixe apparaît soudainement dans le mouvement.
Mais comment le simple fait d'avancer nous donne accès à la profondeur de champ sans faire de maths?
Pense à quand tu roules en voiture sur l'autoroute.
Oui.
Tu regardes droit devant. Les nuages au loin semblent immobiles. Les arbres à 50 mètres défilent lentement sur les côtés.
Et les lignes blanches juste devant le capot explosent vers l'extérieur à une vitesse folle.
Exactement. Cette différence de vitesse dans le flux visuel, c'est de la géométrie pure en action.
Ah, je comprends.
Gibson démontre que quand on s'approche d'une surface, le taux d'expansion de sa texture sur notre rétine spécifie mathématiquement le temps exact avant l'impact.
Pas besoin de calculer la distance puis la vitesse.
Zéro besoin. Ce ratio s'appelle le taux. Le système nerveux capte ça directement. Le ratio et l'information de collision.
Fait qu'on n'est plus du tout dans un paradigme de rendu de jeu vidéo avec des probabilités.
Non, on est dans un principe de résonance.
Comme un diapason.
Un diapason ne calcule pas la fréquence pour décider de vibrer. Il est juste physiquement calibré pour entrer en résonance quand la bonne onde le frappe.
C'est le cœur absolu de la perception directe.
Gibson appelle ces structures fiables dans le flux des invariants.
Des invariants.
Ouais.
Malgré le mouvement constant, certaines relations géométriques dans le flux restent constantes.
Le système perceptif capte l'information directement, pas de détective qui essaie de deviner.
Mais attends, je me fais l'avocat du diable une seconde.
Vas-y.
Ça fait des décennies que des laboratoires de psychologie montent des illusions d'optique sur des écrans à des milliers de personnes. Et ils enregistrent les ondes du cerveau qui s'illuminent pour faire du calcul. On peut pas nier ces expériences-là, non, hein?
Non, Gibson ne dit pas que le calcul mental n'existe pas. Ce qu'il dénonce, c'est que le laboratoire force le cerveau à agir d'une manière non naturelle.
Ah, en fixant la tête du sujet.
Exact. En obligeant le sujet à regarder un écran plat, immobile, le chercheur détruit l'information temporelle. Il coupe le flux optique.
Donc, le système nerveux se retrouve aveugle et forcé de se rabattre sur des calculs probabilistes pour survivre.
C'est en plein ça. Le laboratoire crée le problème de toute pièce pour ensuite observer comment le cerveau le résout. Mais c'est pas comme ça qu'on interagit organiquement avec le monde.
Ça me ramène à l'analogie de la mélodie qui est dans nos sources. Et honnêtement, c'est d'une limpidité redoutable.
Oui, la mélodie, c'est l'exemple parfait pour illustrer ce qui est un invariant.
Si on appliquait la théorie indirecte, le calcul, à l'écoute musicale, ça voudrait dire qu'on prend une seule note isolée, disons un mi.
Ouais.
On l'analyse, puis le cerveau cherche dans sa base de données pour deviner statistiquement d'où vient cette note.
Ce qui est absurde.
Totalement absurde.
Ouais.
Un mi tout seul, ça pourrait être du Mozart, du Metallica ou juste la sonnerie d'un micro-ondes.
Exactement. Le cerveau devrait stocker plusieurs notes, reconstruire la partition mentalement, puis deviner la chanson.
Alors que la méthode directe de Gibson...
C'est juste d'écouter la musique se dérouler dans le temps. La mélodie n'est pas dans les notes individuelles, elle est dans les relations entre les notes.
Le rythme.
Cette structure globale, elle existe juste dans le flux du temps.
Ouais.
On capte directement l'invariant mélodique. C'est tellement fort qu'on reconnaît la chanson même si c'est joué sur un instrument différent.
C'est fou quand on y pense. On fait ça tous les jours. Genre reconnaître la voix d'un de nos proches dans un restaurant hyper bruyant.
Ben oui.
On dissèque pas consciemment les ondes sonores pour reconstruire son empreinte. On résonne avec la structure de sa voix.
Et c'est ce passage-là, du laboratoire au chaos de la vraie vie, qui bouscule le monde des arts martiaux.
Ramène-nous sur le tatami du début.
La question fondamentale, c'est comment le combattant sait que le moment est parfait pour son balayage.
Sous l'ancienne logique, le cerveau capte des pressions tactiles, la vision capte l'angle des épaules, puis l'ordinateur fouille dans sa bibliothèque de techniques.
Et calcule l'instabilité en quelques centaines de millisecondes, ce qui exigerait des capacités de traitement magiques.
Surtout que l'autre gars bouge et essaie de masquer ses intentions.
Voilà! L'approche écologique offre une explication biomécanique tellement plus élégante.
Le flux haptique.
Exact. C'est l'équivalent du flux optique, mais par le toucher et la proprioception. Quand les corps bougent, ils génèrent des forces.
Ça fait que l'instabilité de l'adversaire, c'est pas une conclusion mathématique.
Non. L'instabilité est l'information. C'est une structure invariante, un pattern de tension bien réel.
Le combattant perçoit la vulnérabilité directement, comme on entend une fausse note dans une mélodie.
Ouais.
Ça valide tellement la façon dont les athlètes parlent. Ils disent jamais « j'ai évalué que sa biomécanique était asymétrique ». Ils disent « je le sentais, c'était juste là ».
Les gens pensaient que c'était de la mystique ou de l'intuition, mais la science nous montre que c'est de l'information pure.
Fait que la pédagogie classique, elle...
Elle accuse un retard énorme. L'enseignement est resté ancré dans le modèle de l'ordinateur.
Ah, les fameux drills dans le vide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'entraînement?
Ben, si on pense que le cerveau est un ordinateur, l'instructeur montre la technique dans le vide, décompose en numéros et les élèves répètent ça sur un partenaire statique.
Mais le but étant d'installer le programme moteur, mettons. Mais si l'apprentissage, c'est de se calibrer à des invariants qui existent juste dans le mouvement?
Ben, faire un mouvement sur un bout de viande qui coopère, ça sert à rien sur le plan perceptif.
Ça sert strictement à rien.
Il faut apporter une nuance. Le drill isolé permet d'explorer sa propre biomécanique, de comprendre comment placer son corps.
OK, donc ça a une utilité de base.
Oui, mais l'erreur fatale, c'est de croire que ça isole l'habileté. Sans adversaire qui résiste, le flux haptique n'existe pas. L'invariant d'instabilité n'est littéralement pas là.
C'est comme apprendre à jouer du jazz en étant enfermé seul dans une pièce isonorisée avec une partition. Tu sauras où mettre tes doigts, mais tu pourras jamais résonner avec le groupe.
C'est une super belle image. C'est pour ça que la confrontation libre, le sparring, c'est pas juste un test. C'est le creuset même de l'apprentissage.
Fait que pour calibrer ses sens, il faut baigner dans le chaos structuré. Mais la science contemporaine jette pas tout le modèle computationnel au feu, on s'entend, là?
Non, pas du tout. On s'oriente vers un modèle hybride.
Selon la tâche.
Exactement. Si on joue aux échecs ou qu'on fait de la tactique sur un tableau, on fonctionne en mode indirect. Calcul, mémoire, représentation.
Mais en plein combat ou en pleine action rapide?
L'échelle penche massivement vers la perception directe. L'architecture cognitive se court-circuite pour un couplage direct entre la perception et l'action.
Si on résume cette plongée en profondeur, on passe d'une vision paranoïaque de l'humain, un processeur dans le noir qui doute de ses propres yeux, à un organisme complètement intégré à son environnement.
Un système nerveux sculpté par l'évolution pour capter directement l'information.
C'est fou. Pour quiconque essaie d'apprendre un sport, un instrument ou un métier manuel, ça prouve que la théorie a ses limites. Faut s'adapter au réel pour étalonner nos sens.
Et ça nous amène au concept ultime de Gibson, un concept qui change tout, les affordances.
Les affordances.
Ouais. Gibson affirme qu'on ne perçoit pas des objets géométriques neutres, mais des possibilités d'action.
Attends, donne-moi un exemple.
Quand tu rentres dans une pièce, tu vois pas une structure de bois assemblée à angle droit que tu déduis être une chaise.
Non, je vois une chaise.
Tu perçois directement que l'objet est asseyable. Il t'offre l'action de t'asseoir. Sur un tatami, le combattant voit pas un bras à 45 degrés, il perçoit directement une opportunité de balayage.
Ah, wow! C'est fascinant d'observer son propre regard après avoir compris ça. Notre environnement nous parle constamment de ce qu'on peut y accomplir.
C'est une invitation permanente à l'action, une belle réflexion à garder en tête en regardant autour de soi aujourd'hui.